Nouvelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio Micro Rebelle, que vous pouvez écouter en direct tous les vendredis soirs sur micro-rebelle.fr, le site internet de notre web radio, de notre association d'ailleurs, et que vous pouvez écouter également en direct au travers de l'appli de la Franf. Je rappelle également que nous sommes rediffusés par nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois et en DAB+, qui nous rediffusent chaque vendredi à 20h, chaque samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Alors effectivement, nous sommes en direct depuis maintenant une petite dizaine de jours. Nous avons repris nos activités en studio. Pour l'instant, on ne se croise pas, on se succède l'un et l'une l'autre. On a établi un protocole sanitaire de façon à pouvoir accueillir nos invités le plus rapidement possible et surtout dans les meilleures conditions possibles. Donc on a un peu revu les aspects matériels, les aspects procédures, les aspects aménagement du studio pour effectivement vous recevoir dès que possible et de la meilleure façon possible. Au sommaire de ce micro-rebelle hebdo, notre agenda social et culturel qui reprend tout doucement du fait de l'actualité qui redémarre elle aussi tout doucement. Les actualités au travers de la presse et puis nos reportages ainsi que des morceaux musicaux de la musique libre comme toujours sur Micro Rebelle. Sans attendre, je vous propose notre agenda social et culturel. Alors, très peu d'informations, on a l'actualité des luttes, l'actualité des mobilisations qui reprend quand même, tout doucement, mais de manière quand même significative. On va commencer par ce samedi 30 mai à Lille à 15h sur la place de la République. C'est le comité des sans-papiers 59 qui vous propose une reprise en manifestation, une reprise en marche. Alors je ne suis pas en capacité de vous préciser exactement comment va se dérouler cette manifestation puisque le CSP 59 a eu quelques difficultés, quelques échanges un peu compliqués avec la préfecture du Nord pour l'organisation de cette manifestation. Donc le CSP 59 a effectivement prévu une marche, des groupes de 10 personnes. Chaque groupe est espacé de plus de 10 mètres et au sein d'un groupe de 10 personnes, les distances sont également respectées, plus de 1 mètre par personne, de façon à garantir les 4 mètres carrés par personne. Mais les échanges avec la préfecture n'étaient pas très simples. Je ne suis donc pas en capacité de vous dire comment ça va se passer exactement. En tout cas, je vous rappelle l'horaire. C'est à 15h, place de la République à Lille, samedi 30 mai. Autre initiative qui est d'ores et déjà prévue, c'est la semaine prochaine, le samedi 6 juin. C'est une initiative de l'association ACAD, l'association ACAD, anti-compteurs communicants dans l'Artois et le Douaisis. Et cette belle association que nous avons déjà eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises dans Micro Rebelle Hebdo, cette belle association nous propose de nous inscrire dans la journée internationale de sensibilisation et d'opposition au déploiement de la 5G. Alors ce jour-là, l'association va vous proposer des exemplaires du petit bouquin 5G mon amour. C'est un petit bouquin qui explique un petit peu les enjeux concernant la 5G. Un petit livret réalisé par Nicolas Bérard, qui est journaliste à la revue L'Âge de Fer. Il y aura également des distributions de tracts sur le marché d'Arras à partir de 10h le matin. Et l'initiative en elle-même se tient l'après-midi à partir de 14h30. Donc rassemblement devant la gare, puis départ par groupe de 10, hein, comme avec le CSP 59, hein, par groupe de 10 qui sont espacés entre eux. Départ de la gare, donc rue Gambetta, puis Grand Place. Donc c'est samedi prochain, samedi 6 juin, c'est dans l'après-midi, à partir de 14h30, devant la gare, opposition au déploiement de la 5G. Voilà, ce sont l'ensemble des petites informations que j'avais à vous communiquer concernant cet agenda. L'actualité va reprendre tout doucement ses droits et on aura, je pense, assez vite des initiatives politiques, mais également culturelles, je pense, à vous présenter. Alors, concernant l'actualité, telle qu'on la voit au travers de la revue de presse, alors le soi-disant monde d'après se met en place au détriment des travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses et précaires, intérimaires, etc. Alors c'est une mise en place qui signifie des charrettes de licenciement, des fermetures d'entreprises, bref, une casse sociale en bonne et due forme. Alors on va commencer par les usines Renault avec ce titre dans La Voix du Nord. Renault veut supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Et l'article précise, concernant les sites de production dans l'Hexagone, l'activité de l'usine de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, qui emploie 260 personnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesse utilisées comme pièces de réemploi, doit être transférée vers l'usine de Flins, dans les Yvelines, à une soixantaine de kilomètres de là. À Flins, la production, poursuit La Voix du Nord, la production automobile, cessera après la fin de la Zoé, d'ici quelques années. La direction a déclaré devant le CSE qu'il y aurait une réflexion en vue de la création à Flins d'un écosystème sur l'économie circulaire qui intégrerait Choisy-le-Roi, a déclaré une source syndicale. Le projet prévoit une revue stratégique du système de fonderie fonte en France qui concerne l'avenir de la fonderie de Bretagne à Caudan dans le Morbihan avec 400 salariés. Fin de citation. Alors près de chez nous, il existe trois usines, MCA à Maubeuge, STA à Ruy et Renault Douai. Ces trois sites emploient 5 500 personnes. Typiquement, il est demandé aux sites de Maubeuge et de Douai de réfléchir à un rapprochement sous la forme d'un pôle d'excellence Douai-Maubeuge. Alors on peut le supposer, l'inquiétude est grande chez les salariés de Douai et Maubeuge. Je cite la page web de La Voix du Nord concernant l'usine MCA de Maubeuge. Tôt ce vendredi matin, bien avant le démarrage du CSE, donc le Comité Social et Économique, hein, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le CSE, donc bien avant le démarrage du CSE, des distributions de tracts ont eu lieu à l'entrée de l'usine. Inquiets, des salariés ont suggéré l'arrêt immédiat de l'usine. Nous avons dans la foulée déposé un appel à la grève pour les deux équipes, assure Jérôme Delvaux, responsable CGT. Plus aucune voiture, poursuit un peu cet article sur le site internet de La Voix du Nord, plus aucune voiture ne devrait donc sortir du site avant mardi, sachant que ce vendredi, c'est de la perte sèche. C'est le moins que l'on pouvait attendre, alors même qu'au sortir du CSE, les mines se font graves. Aucune certitude concernant la délocalisation de l'assemblage vers le site de Douai, mais une indication, Maubeuge et Douai doivent se mettre autour de la table pour créer un pôle d'excellence autour du véhicule électrique et du petit utilitaire. C'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer, glisse amer Yannick Charlesège de la CFTC. On ne sait plus sur quel pied danser. Cette position assez inédite qui voudrait, pour résumer, que les syndicalistes de Douai et Maubeuge se partagent le bout de gras, Samuel Beauvois, représentant Sud, n'en veut pas. On leur parle de table ronde, d'élus, de discussions, d'accords à trouver. Mais pour lui, il est hors de question de négocier quoi que ce soit. Là-dessus, sa position est claire. Nous ne participerons pas aux réunions. L'homme estime que l'usine MCA n'a rien à négocier. Nous avons pour nous la performance, les hommes et le savoir-faire. Si Renault veut faire un pôle d'excellence, qu'il tranche lui-même. Fin de citation. Donc d'ores et déjà, une manifestation est prévue au départ de l'usine ce samedi matin. Rappelons que Renault, en annonçant ses résultats financiers du premier trimestre, indiquait disposer encore de 10,3 milliards d'euros de liquidités pour son activité automobile. Rappelons également que depuis la reprise, fin avril, la direction de Renault n'a jamais cessé de pousser à la production, quitte à mettre les travailleurs et travailleuses en situation compliquée pour appliquer les règles de sécurité sanitaire. Et enfin, rappelons que le gouvernement annonce un prêt de 5 milliards d'euros à Renault sans contrepartie. L'autre exemple, tout au moins régional, c'est Camaïeu, qui est placé en redressement judiciaire. Extrait de La Voix du Nord. Placé en redressement judiciaire, l'enseigne nordiste d'habillement, première en France pour la mode féminine, a subi la crise sanitaire. La fermeture pendant 2 mois des magasins a été le coup de grâce. L'article continue. Camaïeu a annoncé avoir perdu, pendant 2 mois, près d'un quart de son chiffre d'affaires et a été contraint de se déclarer en cessation de paiement. Seulement à cause du coronavirus ? Gildas Maviel nuance. Cela a évidemment joué sur Camaïeu et tout le secteur, mais on n'avait pas besoin de cela. Fin de citation. Le site de La Voix du Nord, quant à lui, donne la parole au fondateur de Camaïeu. Extrait. Camaïeu, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai créé, assure Jean-Pierre Torque, cofondateur de la société en 1984, prélude à la naissance d'autres enseignes comme Okaidi, Jules, etc. Pour lui, les choses sont simples. Les difficultés ont tout à voir avec la crise du coronavirus. Les magasins ont fermé, une décision ridicule du gouvernement. Il n'y a pas eu de rentrée d'argent et pendant ce temps, il fallait payer les fournisseurs, développe celui qui ne possède plus qu'une part infime du capital. Fin de citation. Rappelons en complément de cette intervention de Jean-Pierre Torque dans La Voix du Nord que la famille Torque est toujours citée dans le classement des 500 plus grandes fortunes françaises, et ce depuis 2003. Après avoir revendu Camaïeu en 2008, il est réinvesti dans d'autres enseignes. En 2019, sa fortune était estimée à 160 millions d'euros. Alors c'est donc bien une casse sociale de grande ampleur qui se profile. Et dans ce contexte, les associations de chômeurs et de précaires se mobilisent. Nous avons par exemple noté ce titre dans La Voix du Nord. Des associations de chômeurs et de précaires réclament une année blanche pour leurs droits. Extrait. Dans un courrier adressé au gouvernement, plusieurs associations de chômeurs et de précaires, ainsi que des syndicats, demandent une année blanche pour les chômeurs afin d'éviter une catastrophe sanitaire et sociale. Ce courrier est signé notamment par AC, Agir ensemble contre le chômage et la précarité, le Collectif national des travailleurs privés d'emploi et précaires, le MNCP, le syndicat SNU Pôle emploi, le Collectif des précaires hôtellerie-restauration événementielle, le CPHR. Nous mesurons la catastrophe qui est en train d'arriver. Il est indispensable que vous l'entendiez et preniez ces mesures d'urgence, écrivent une quinzaine d'associations, de syndicats et de collectifs. Des milliers de contractuels à durée déterminée ou en CDD d'usage, de vacataires, d'intérimaires, d'intermittents de l'emploi ont vu leur mission arrêtée ou non renouvelée et ne les verront pas reconduites, explique-t-il. Des secteurs entiers de l'économie, hôtellerie, restauration, culture, tourisme, sport, sont déjà à l'arrêt sans savoir dans quel délai et dans quelle proportion ils pourront reprendre leur activité. Ces travailleurs et travailleuses précaires, qui ne vivent ordinairement que de leur travail, n'ont pas bénéficié de mesures de protection exceptionnelles pendant le confinement et n'ont survécu que grâce à la solidarité alimentaire organisée par les citoyens, citoyennes et les mairies, ajoute-t-il. Fin de citation. Alors on n'a pas de retour concernant cette demande, mais le courrier dont je viens de vous lire des extraits a le mérite de donner un éclairage sur la réalité des chômeurs, chômeuses et précaires. Alors toujours concernant les licenciements, La Voix du Nord évoque le cas de l'usine Goodyear à Amiens-Nord qui employait 1143 personnes avant sa fermeture en janvier 2014. Titre de La Voix du Nord, Goodyear condamné pour licenciement abusif de 832 salariés de son ex-usine. 6 ans après la fermeture de son usine de pneumatiques à Amiens-Nord, ayant entraîné le licenciement de 1143 personnes, Goodyear a été condamné hier pour licenciement abusif, un jugement qui rend leur dignité aux salariés éprouvés par des années de procédures. Et la Voix du Nord détaille « Le montant total que le groupe américain devra débourser en dommages et intérêts pour 832 des salariés partis à la procédure n'était pas immédiatement connu de l'avocat des salariés. Maître Fyodor Rylov met la décision du Conseil des prud'hommes est exécutoire provisoirement selon lui. À l'audience dite de départage du 28 janvier, Maître Rylov avait insisté sur les bénéfices d'exploitation mondiaux à l'époque du groupe Goodyear d'un montant de 1,7 milliard de dollars, environ 1,5 milliard d'euros. Il avait considéré cette affaire comme emblématique du refus des ouvriers de se laisser écraser à l'occasion du démantèlement de leur outil de travail pendant que leur employeur réalisait des profits colossaux. » Fin de citation. On peut rappeler en effet qu'en 2014, Goodyear multinational du pneumatique réalisait 2,7 milliards de bénéfices après impôts auxquels il fallait rajouter les aides de l'État. C'est donc à l'issue d'une dure bataille qui a impliqué une grande majorité de salariés que cette condamnation de Goodyear est tombée. Voilà, je vous propose de nous en arrêter là pour cette revue de l'actualité au travers de la presse. Et je vous propose tout de suite un petit reportage réalisé sur les trottoirs de Lens. Un petit reportage qui évoque le monde d'après. C'est Luc qui a pris son micro canon pour faire des interviews à distance et qui nous propose ces différents échanges.
Je sais même pas par quoi commencer. Je sais pas par quoi commencer, non. Que les gens percutent et arrêtent d'aller au magasin acheter. Qui vivent un peu plus pour eux-mêmes et pas pour ces commerces. C'est tout. Ce serait déjà un bon début.
Ben, un changement, que la planète elle se réchauffe pas, quoi, qu'elle se met normalement. Parce que ce qui ramène les virus, c'est le réchauffement de la planète. Et Nicolas Hulot avait prévenu les politiciens comme quoi que il allait y avoir de plus en plus des virus. Et pas seulement le coronavirus, il va en avoir des autres beaucoup plus mortels que ça.
Changer de comportement déjà. Que l'être humain change de comportement.
Vous entendez quoi par là ?
Vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'autrui. Par rapport au respect de son corps, il y a beaucoup de choses à changer. Déjà avant le Covid, on parlait des gestes barrières lors de grippe, etc. Mais ce n'est pas uniquement en période de grippe. On se lave toujours les mains. Ça devrait être... Nous, on nous l'a inculqué lorsqu'on était enfant. On l'inculque aussi à nos enfants, mais j'ai l'impression que c'est pas assez dit, ou alors on oublie.
Par rapport à la société, plus globalement.
Le respect de l'environnement, déjà. Le respect de la planète. C'est peut-être ça aussi qui nous joue des tours, hein. Je sais pas, mais peut-être, ouais. Notre rôle par rapport à tout ce qui a été créé pour nous.
Oh ben, j'aurais une baguette magique, je ferais plein de choses.
Lesquelles, par exemple ?
Déjà la propreté, changer le caractère des gens pour qu'ils soient plus propres, moins sales, ça revient au même. Sinon, moi je dis que pour la politique, il y a Macron actuellement, ben, quand on a élu un président de la République, qu'on le laisse faire son boulot pendant les 5 ans. Si ça va pas, on change. Mais il faut le laisser faire son travail. Parce que là, il faut dire que depuis les gilets jaunes, le Covid, les gens passaient des meilleurs, je pense que faut que les gens soient civiques, déjà pour commencer.
Privilégier les centres-villes en lieu des grands centres commerciaux qui... Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable, c'est pour se promener là, dans une galerie marchande. Quel plaisir. Que les villes deviennent de plus en plus des villes dortoirs. Il n'y a plus rien qui se passe en ville. Si, les fermetures de commerce.
Il y a beaucoup plus de travail pour les jeunes de maintenant. Beaucoup plus de travail, beaucoup moins de difficultés. Et beaucoup plus d'école et tout ça, que les gens respectent l'école et tout. Genre faire un RSA pour les jeunes. Parce qu'il y en a, alors aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils n'ont rien, tout ça, c'est difficile pour le travail. Il y a des gens, c'est plus facile pour eux de travailler parce qu'ils ont de l'expérience. Et nous, les jeunes, c'est très compliqué de travailler pour nous maintenant.
Moi, j'aimerais bien que le monde d'après, il soit un petit peu plus solidaire, qu'il soit plus écologique. Je pense qu'avec le virus, il y a eu une petite montée en puissance de la pensée écologique. Mais je crois que ça ne va pas durer, en fait. Une fois que la reprise économique va se faire, je pense que les gens auront plus le temps, ils vont reprendre leur vie d'avant. Et tout ça, ça va tomber à l'eau, faute de temps, faute... voilà, c'est ce que je pense. Donc ça, au niveau écologie. Après, au niveau solidarité, je pense que il y a beaucoup de liens qui se sont créés dans les quartiers, dans les rues, des gens qui ne se connaissaient pas. Alors moi, j'en ai fait l'expérience, hein, dans ma rue, il y a des gens que je ne connaissais pas, je les voyais par la fenêtre. Et du coup, c'était vachement plus facile, étant donné qu'on ne pouvait pas s'éloigner trop, qu'on devait rester à la maison, c'était plus facile de se dire « Bonjour, comment ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Je suis allée taper chez une dame âgée en lui demandant « Je peux aller faire vos courses, etc. » Et je sais qu'après le confinement, ces petits liens vont rester, mais je ne vais plus m'amuser à aller taper chez eux régulièrement pour savoir si ça va, mais je vais les croiser dans la rue, je vais prendre le temps de leur dire bonjour, etc.
Mon aspiration, un grand coup de pied au cul à Macron. Oui, ça, vous n'allez pas me mettre sur votre radio. Et à toute son équipe de bleu-bleu. Enfin bon, vous savez, à 73 ans, c'est plutôt le cercueil que j'attends. Hein. J'aurais aucun scrupule à crever. Vite fait, bien fait.
Déjà, tout le monde se plaint que les masques sont pas gratuits, mais les protections hygiéniques pour les filles non plus. Donc voilà, rien que ça. L'écologie aussi. Genre, on se rend bien compte qu'il y a encore des masques par terre, donc les gens, ils sont vraiment mal élevés, quoi. Mais après, je sais pas trop.
Niveau écologie, là, on voit qu'avec le confinement, y a eu beaucoup moins de pollution, tout ça. Il faudrait que les gens, ils s'arrêtent... Il fait pas reprendre comme avant, quoi.
Ça consistera en quoi ?
Déjà les déplacements, plus de déplacements en voiture tout le temps et tout, ça a fait du bien. Puis dans les ports et tout, les avions, tout ça, surtout les déplacements. Et les usines.
Qu'on évite de payer les stationnements, ça serait bien. Ouais. J'habite dans le centre, j'habite au-dessus. Donc forcément, le fait d'habiter ici sur Lens et en plus devoir payer. Le parking, c'est pas normal, quoi. J'estime qu'on paye nos impôts et voilà, on va pas encore repayer une place de parking. Après, le changement, malheureusement, les commerçants il n'y a plus grand-chose, quoi, ici, hein. Tout ferme. Alors, pour quelle raison, c'est pas. Changer de pays, c'est possible que je vous le dise, ça.
Ça veut dire quoi? Vous voulez déménager?
Je vais déménager. Franchement, je vais être honnête avec vous, Lens est devenu mort.
Moi, j'habite pas à Lens, j'habite plus à Paris. Mais tout ce qui est Paris, y a eu beaucoup plusieurs cas. Donc si le confinement serait un peu plus rallongé, ce serait un peu mieux.
Ah bon, carrément,
bah
toi?
Bah oui.
Ah, dis pas ça, toi.
Si, ça sera plus rallongé, ce sera un peu mieux.
Parce que être confiné chez toi?
Bah oui, parce qu'au moins, on sera tranquille, on sera pas malade, en gros, tout ce qui est stressé, comme... Quoi, attraper le Covid-19?
Oh bah le monde si bien pour rien changer maintenant, c'est trop tard.
Plus de sécurité, plus de décisions prises rapidement et plus de liberté, enfin je veux dire moins de discrimination aussi.
Plus de sécurité, ça veut dire quoi?
Je pense que l'État n'a pas pris les mesures assez rapidement de sécurité. Et on pouvait éviter tout le nombre de décès, malheureusement. L'État a mis du temps à comprendre et à gérer. Et là, on attend de l'État qu'il prenne des décisions plus radicales et plus rapides. Être plus à l'écoute des citoyens et de leurs demandes. Ma demande, c'est un monde sans discrimination sociale. Ça serait déjà ça.
Bien, reportage micro-trottoir dans les rues de Lens. Hein, il y avait quelques bruits de voitures, hein, mais c'est des bruits qui sont liés aux conditions de prise de son distantes. Nous poursuivons notre mission, ce micro-rebelle hebdo.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Bien, je vous ai proposé le groupe Réplicas. C'est de la musique libre, hein, comme ordinairement sur Micro Rebelle. On va poursuivre un petit peu nos échanges. Justement, c'est pour faire part des échanges que nous avons eus avec nos auditrices et auditeurs. Hein. Durant toute la période du confinement, depuis le 15 mars, nous avons ouvert notre répondeur téléphonique de façon à laisser s'exprimer d'une manière diverses et souvent très variées, nos auditrices et auditeurs. On va clore cette série de messages téléphoniques. On la clôt et je vais vous proposer le dernier montage qui a été réalisé. Donc, on avait donné une thématique, hein, la thématique du monde d'après. Ça a été plutôt pas mal suivi, mais il n'y a pas que ça. Je vous laisse tout de suite en liaison avec vous, avec nos auditrices et auditeurs, au travers du répondeur de Micro Rebelle, pour cette dernière chronique d'un confinement.
Aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Nos enfants, miroirs de notre réalité intérieure, nous confrontent à nos limites et nous apprennent à aimer. Ce sont d'excellents guides spirituels pour peu qu'on les écoute.
Bonjour à toutes et tous. Après les deux mésanges les plus communes de nos jardins de la semaine dernière, donc toutes les deux au ventre jaune, je vous propose aujourd'hui deux oiseaux à la tête grise, ou plus exactement la calotte est grise, c'est-à-dire le dessus de la tête. Tout d'abord, le moineau, ou plus exactement le moineau domestique. Pour le mâle, la calotte est donc grise, la nuque marron, les joues blanches et la gorge noire. La femelle, elle, est plus discrète. Sa tête est toute brune. Le corps de ces oiseaux est gris clair. Les ailes striées marron, noir, gris, blanc, ouais, plein de couleurs striées pour les ailes. Voici son chant. Bon, vous aurez compris, hein, tout le monde a déjà vu des moineaux, ça part un peu dans tous les sens. Le second oiseau, c'est le pinson des arbres. Donc lui aussi, hein, la calotte grise, hein, c'est la thématique du jour. La tête, elle, possède plus de gris quand même. Son front est noir, donc son front juste au-dessus du bec. Hein. Les joues sont brunes. Son ventre, lui, est gris, le dessus, marron. Et les ailes sont striées noires et blanches. Voici son chant. Il lui arrive aussi de pousser des cris, très régulièrement, des cris comme cela. Voilà, bon, pour résumer, c'est un peu compliqué tout ça. Mais finalement, ces deux oiseaux, le pinson et le moineau, sont des oiseaux qu'on voit régulièrement dans nos jardins. Leur tête, donc leur calotte, est grise. Mais pour faire la différence entre le moineau et le pinson, au-delà de la forme difficile à expliquer à la radio, le moineau, lui, il a la nuque marron, les joues blanches et la gorge noire. Donc, joues blanches, gorge noire, nuque marron. Le pinson, lui, a le front noir.
Et après, comment a-t-on envie de vivre après ce naufrage du système capitaliste ? Naufrage, ça me fait penser au récit de Jean Grave, Terre libre, qui imagine le naufrage de galériens en route pour la Nouvelle-Calédonie qui arrivent sur une terre libre de toute tradition et coutume et qui vont créer une société nouvelle avec de nouvelles règles et qui décident donc eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire. Et moi aussi, j'ai envie qu'on décide nous-mêmes de ce que nous aurons besoin de faire, de ce dont nous aurons besoin pour vivre après cette crise sanitaire, et qu'on décide qu'il n'y ait plus aucune production qui exploite les humains et la nature, qu'on décide nous-mêmes, qu'on décide que tout ce qui est fondamental pour vivre, l'éducation, la santé, les transports, l'énergie, etc., soit un vrai service public performant, qu'il n'y ait pas d'argent pour le privé sur ce terrain-là, qu'on gère nous-mêmes les entreprises dont on a besoin pour ses besoins essentiels, qu'on arrête de prendre dans la caisse de la sécurité sociale, hein, que les caisses de sécu elles soient sanctuarisées et qu'on arrête de faire des cadeaux aux entreprises et notamment aux actionnaires des entreprises, hein, parce que je parle pas des petites boîtes locales, mais de celles qui engraissent les actionnaires, qu'on arrête de prendre dans les caisses de la Sécu pour faire des cadeaux aux entreprises, que cette crise soit aussi enfin l'occasion d'abolir vraiment les privilèges, qu'on abolisse toute discrimination, qu'elle soit raciale, sexiste, sociale, qu'on abolisse la notion même du revenu de l'argent, hein, de faire travailler son argent, qu'on abolisse l'héritage, qu'on redistribue tout ce qui reste aux gens à leur mort dans une caisse commune pour que tous les jeunes qui démarrent dans la vie puissent avoir les moyens de démarrer dignement. Qu'on abolisse la propriété privée des moyens de production, qu'on abolisse la notion même de propriété privée et qu'on la remplace par la notion de propriété d'usage. On pourrait avoir la propriété d'usage de sa maison tout au long de sa vie ou la propriété d'usage de sa voiture tant qu'elle roule, etc. Abolition, ça veut donc dire des interdits dans la loi, dans les faits. Donc des interdits dans la loi et dans les faits, bah, ça passe par le politique. Des interdits dans les mentalités, qu'on ne s'autorise plus à, et ça passe par l'éducation, et donc en terminer avec l'opposition, tout viendrait de l'éducation ou tout passerait par le politique, mais se dire qu'il faut avancer sur les deux en même temps, et sur le terrain politique et sur le terrain éducatif. Bref, nous avons du pain sur la planche, mais c'est quand même sacrément stimulant.
Olivier, pour le monde d'après. J'ai choisi un texte de Vincent Liéger, Stéphane Madeleine, Christophe Ondé, Thomas Venel, Anne-Isabelle Veillot, dans Projet de décroissance. Extrait. Face au confinement, la plupart d'entre nous a choisi de faire preuve de solidarité et d'humanité plutôt que de se reposer sur l'économie globalisée et un exécutif irresponsable. Appuyons-nous sur ces valeurs pour anticiper la société d'après. Un projet de décroissance. Pour sortir de la crise. Avec le confinement, nos imaginaires se décolonisent progressivement. La société de croissance et son productivisme, son consumérisme et son travaillisme semblent plus que jamais absurdes. Nous avons été forcés de nous recentrer sur les choses simples mais essentielles de la vie. Se nourrir, prendre soin de soi, de ses proches, de son lieu de vie et prendre son temps. Nous mesurons l'importance des liens, de la convivialité, de notre environnement immédiat, nous expérimentons une réappropriation de l'économie que l'on pense impossible. Mettre en place un revenu de base. Inversons l'approche qu'on tente de nous imposer. Donnons aux pauvres pour sauver les riches. Donnons aux travailleurs pour sauver les entreprises. Les entreprises qui sont à l'arrêt seraient libérées de la charge de salaire. Celles qui sont essentielles seraient libérés des charges économiques et pourraient ainsi consacrer leur énergie et savoir-faire à la production et à l'acheminement des produits vitaux. Les travailleurs à l'arrêt pourraient aider aux tâches essentielles. Faisons le pari de l'entraide, de la solidarité, mais surtout de l'autogestion et du bon sens, qui depuis le début ont montré leur force face à l'inertie de la bureaucratie centralisée et à la compétition entre les États et les entreprises. Ce revenu de base serait couplé à un revenu maximum acceptable, parce que plus que jamais, il faut rompre avec la logique délétère qui postule que les profits sont privés et les pertes sont publiques. Puis tendre vers une dotation inconditionnelle d'autonomie. Cette dotation est une invitation à questionner nos besoins fondamentaux et à imaginer comment y répondre de manière soutenable, juste et souhaitable. Pourquoi ne pas commencer par démonétariser nos économies pour mieux les réencastrer avec des gratuités? On pourrait ainsi commencer par l'instauration de gratuités des services funéraires en cette période si particulière. Enfin, et c'est peut-être un des enjeux centraux des semaines à venir, après la santé, comment éviter des ruptures dans les chaînes alimentaires? Travailler notre résilience passe par une attention particulière à l'agriculture de proximité. Le printemps est là. Jardinons partout, en particulier dans les villes, afin de les rendre autonomes, comestibles et goûteuses. Mettons à profit le savoir-faire de l'agriculture paysanne. Soutenons et créons des circuits courts et locaux qui permettent de se nourrir en minimisant les risques de contagion et en renforçant solidarité et convivialité. La mise en place de gratuités, de systèmes d'échanges locaux et de monnaie locale serait souhaitable afin de recréer des économies ancrées dans leur territoire pour produire l'essentiel de manière locale, soutenable et résiliente. Ainsi, nous soutenons plus largement l'idée de réquisition, nationalisation et planification. Il faut relocaliser dans les territoires les productions essentielles, particulièrement en matière de santé, masques, savons, les gels hydroalcooliques, médicaments, oxygène, pour enfin se déconfiner de la société mortifère de croissance. Nous ne sortirons pas indemnes de cet épisode historique. Nous aurons des deuils à faire, une société à réorganiser. Soit la stratégie du choc nous imposera son agenda, soit la pédagogie des catastrophes fera son œuvre. Plus que jamais, l'enjeu est donc de capitaliser sur les enseignements de cette période. Se concentrer sur l'essentiel, remettre l'économie à sa place, au service de l'humain, du vivre ensemble, de la résilience et de la joie de vivre, et rendre nos territoires résilients et autonomes. Merci.
Bonjour, c'est Jacques. Je lance une petite invitation à rejoindre Véronique et moi pour jardiner local, jardiner sans pesticides, pour le plaisir de renouer avec la nature, de refaire alliance avec la terre, de refaire alliance avec les plantes. Si je vous dis ça, c'est parce que il y a quelques années, nous avons eu l'idée d'un jardin partagé. Nous étions six au départ. Et puis, après avoir défriché, récolté, semé, ressemé encore, nous avons perdu des bras qui sont partis s'investir ailleurs et nous ne sommes plus que deux maintenant pour ce petit jardin de 650 mètres carrés où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais où il y a de quoi faire encore. Alors, comme la mode est au manger local, au manger sans pesticides, comme je disais, eh bien, c'est une invitation à nous rejoindre que je lance sur ce répondeur. Nous avons quelques petites compétences à partager, mais nous sommes aussi prêts à apprendre et nous espérons que une ou deux viendront nous rejoindre pour partager le travail et partager le plaisir de se retrouver sur ce petit terrain bien agréable qui se trouve donc à Ablain-Saint-Nazaire, rue de Namur. Vous pouvez aller le voir aisément, mais sinon on vous y conduira avec plaisir. Voilà, à bientôt, au revoir.
Oui, micro-rebelle à refouler tout, on est à refouler gagné, on est bien mangagné. On est appelé comme il y a un ami doux, on est aussi notre Elsa. Donc, il y a un peu de quoi. Donc, je vais vous chanter en bambara. Donc, c'est ça.
Njaniba ebeta kanetoa, kaneto kelena hamina. Njaniba ebeta kanetoa, kaneto kelena hamina. Njaniba, kanata njaniba, ai, kanata njaniba. Kanata kaneto mon amour, njanyeba ai, je t'aime chérie, ne t'en va pas, ne me laisse pas seul mon amour. Oh, ça c'est un petit coucou pour tout le monde, donc voilà, c'est ça, c'est Blaine. Avec mon tchounanara, et tchou pépère.
Ben oui, c'était le répondeur de Micro-Rebelle durant ces semaines de confinement. Donc ce répondeur en tant que tel, il est clos maintenant, mais n'hésitez néanmoins pas à nous contacter, hein, soit par le courriel contact@micro-rebelle.fr ou encore par le répondeur. Hein, n'hésitez pas à nous laisser des messages, nous faire des suggestions de reportages, des suggestions d'interventions radiophoniques, des idées également. On poursuit ce Micro-Rebelle Hebdo, hein, qui touche à sa fin par un dernier reportage. Ce sera un extrait de reportage. On revient sur le confinement et sur la place qui ont occupé les femmes, pas durant le confinement en tant que tel, mais durant le confinement et la lutte contre le coronavirus. Hein, les femmes qui étaient en première ligne, qui étaient mobilisées. Un reportage de Luc que vous pourrez écouter dans son intégralité sur notre site micro-rebelle.fr.
Depuis le début de l'épidémie, en tant qu'institut de formation, nous avons eu des directives de l'ARS via donc le ministère de la Santé pour réorganiser les stages des étudiants afin qu'ils soient mis dans les services en renfort des équipes pour aider les équipes à gérer cette crise sanitaire. Donc il a fallu qu'on réorganise tout ça, ça a demandé beaucoup de travail, avec un sentiment un peu ambivalent, c'est-à-dire appliquer des directives ministérielles et en même temps savoir qu'on allait affecter des étudiants dans des unités Covid, c'est-à-dire mettre des étudiants en première ligne. Donc il est bien certain que quand on embrasse cette carrière, tant qu'étudiant, en tant que salarié, enfin professionnel, on se doit d'y aller, quoi, d'aller face aux problématiques. Pour les professionnels, se pose moins la question parce que c'est ancré dans leur esprit. Pour certains étudiants, c'était un petit peu plus problématique parce que se posait la question de la peur d'être confronté à la maladie, ou alors la peur des parents, la peur de l'entourage, leur interdisant d'y aller. Et donc, certains étudiants étaient tiraillés entre leur envie de participer au service public, à aider les autres, à soigner les gens, et la peur des parents. D'ailleurs, très vite, une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place.
Situation Covid, c'est vrai que personne ne s'y attendait, hein, donc ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter tous les jours, parce qu'on a eu énormément de changements de d'avis, de position. Un jour, il fallait faire telle chose. Un jour, mettre les masques pour telle intervention, mais pas pour d'autres. Oui, non. FFP2, pas. Ça a été très compliqué. Après, il a fallu gérer le stress des patients, le stress de certains collègues. Il faut dire aussi que tout le monde ne vivait pas ça de la même manière. Hein. Donc, certains ont été vachement angoissés par rapport à la situation, de devoir travailler, de prendre les risques. Après, pour d'autres, moi, au niveau du travail, ça allait, mais c'était plus une crainte vis-à-vis de la famille à la maison. Enfin, voilà, on les reste confinés, mais finalement, nous, on va y en venir tous les jours. Je me dis, je les confine, eux n'ont rien, mais peut-être que je vais leur transmettre. Et puis, à cela, il fallait ajouter aussi s'adapter dans la vie quotidienne, parce que, l'école à la maison pour les enfants, des enfants qui peuvent donc pas trop sortir... pas hésitant, surtout quand on continue de travailler, parce que ça prend quand même beaucoup, une paire d'heures de travail à l'école, donc voilà.
peu de patients au tout début, et puis de plus en plus. Très compliqué à gérer puisqu'il y avait la fatigue physique, mais aussi la fatigue psychologique, puisque c'est des patients qui n'avaient pas de visite de leur famille, pas de proches, qui se retrouvaient seuls. Et puis beaucoup de gens qui sont transférés en réanimation, et puis beaucoup de gens aussi qui malheureusement partent seuls, décèdent seuls. Et c'est ce point-là qui est très compliqué pour nous, enfin moi, en tant que soignante dans mon service. Au-delà de la pathologie du Covid, qui est déjà aussi très compliquée à gérer, puisqu'il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas par rapport à ce nouveau virus. On ne sait pas trop comment faire, comment agir, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien. Qu'on doit se protéger au maximum, mais est-ce que le maximum est suffisant, on ne sait pas. Et puis après, c'est le retour chez nous aussi, après notre nuit de travail, qui est compliqué parce qu'on doit gérer nos émotions, on peut pas prendre notre famille dans nos bras, on peut pas les embrasser, on doit rester à distance quand même pour les repas, pour les vêtements aussi, on doit faire attention, se déshabiller à l'hôpital, prendre sa douche à l'hôpital, les vêtements chez soi, bien les mettre à part, les laver à 60 tout seul, enfin... Il y a plein de précautions qu'on doit faire attention pour se protéger nous, mais surtout pour protéger notre famille. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas et auxquelles on n'était pas confrontés avant le Covid-19.
Selon le métier, chacune est donc confrontée à différents degrés de dangerosité. Les risques d'être infecté ou de transmettre le virus sont pourtant réels. Une menace qui peut éveiller un sentiment de peur. Rappelons que ces risques s'ajoutent à ceux liés à des professions particulièrement accidentogènes. Dans les EHPAD, par exemple, l'indice de fréquence des accidents du travail s'élève à 47,1, soit près de deux fois la moyenne nationale.
Moi, je le vis, j'ai pas la peur. Je peux pas dire que j'ai peur. Après, je me dis que si c'est pas au travail qu'on l'attrape, c'est en allant faire des courses. Ça peut être un. Il y a tellement différentes façons de l'attraper que moi, c'est pas la crainte du travail.
Je n'ai pas peur, mais oui, c'est vrai qu'on est fortement exposé parce qu'on est proche des gens, dans leur intimité. Voilà, on s'occupe d'eux, on va dire, au moins 30 minutes, voilà, le temps d'effectuer une toilette, voilà, d'aider à manger. Donc forcément, on est beaucoup exposé au virus. En gros, on subit le truc, quoi. Voilà, on ne sait jamais à l'avance qui est infecté par le virus ou pas, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on a des remplacements d'autres services. Et comme là, c'est arrivé la semaine dernière, une collègue était positive. Donc là, du coup, le personnel est... Enfin, là, on est en train d'être testé. Et ensuite, ce sera autour de tous les résidents.
Non, je me sens pas plus en danger... À la pharmacie que chez certains de mes employeurs. Non, dans la mesure où on fait très attention, où on pense très souvent à se laver les mains, à cette barrière de distance qui est conseillée, et puis je ne vis pas plus mal, je ne peux pas dire qu'avant, parce que là, avant, c'est peut-être plus le mot qui convient. Enfin, t'as l'impression que le avant soit encore d'actualité, c'est autrement. C'est différent. Voilà, je vis mon travail, ma profession différemment. Alors, peut-être parce que j'ai pris conscience du danger, point barre.
Nous, dans les locaux de l'Institut proprement dit, il faut reconnaître qu'on était loin des services. Donc, à part être en contact avec un collègue qui était porteur sans le savoir, toujours une crainte. Et la crainte aussi de rencontrer dans son entourage quelqu'un de porteur sans le savoir et de ramener ce virus à l'école, même si on mettait toutes les mesures en place. Le gros sentiment, en tout cas le mien, et je le partage avec pas mal de formateurs, c'est d'envoyer les étudiants au front, en sachant que paradoxalement, on sait que les étudiants qui sont envoyés dans les ailes les services Covid, là, ils ont eu très rapidement tous les moyens pour se protéger, tandis que dans les autres services non Covid, Ben, ils appliquent les mesures de précaution standard ou complémentaires habituelles, mais sans le savoir. Et c'est là où ils sont plus à risque, en fait.
Pour le personnel de l'établissement, je pense que c'est un peu ce qu'on entend dire régulièrement, c'est un ennemi un peu invisible. Donc je pense que dans les premiers temps, ça nous semblait quelque chose d'un peu loin. On a entendu parler effectivement de ce qui se passait dans l'Est, dans les EHPAD d'ailleurs de l'Est également. Et puis est arrivé le premier cas chez un résident de l'établissement, où là effectivement il y a eu un espèce de mouvement de panique et qui est tout à fait légitime. Alors il se fait que ça a été à peu près au même moment où on a commencé nous à trouver des solutions pour récupérer des blouses, etc. Mais il est sûr qu'il y a eu ce questionnement permanent de l'exposition au virus et puis effectivement de l'exposition pour leur propre famille. Il y a des personnes qui, de fait, ont eu des craintes et qui donc se sont mis en arrêt maladie. Bon, il y avait un peu toutes les réactions. Heureusement, j'allais dire, on a pu aussi recruter des personnes dans la même période, même si ça a été extrêmement tendu. On a pu faire face à l'accompagnement des personnes avec des vrais changements de postes pour certains, c'est-à-dire des personnes qui faisaient de l'animation qui se retrouvent en lingerie, des personnes qui faisaient de la psychologie qui se retrouvent à désinfecter des chambres.
Ben moi, personnellement, j'en ai la conscience quand même, mais en même temps, ça ne m'angoisse pas trop parce que, enfin, déjà, je me dis que je suis plus ou moins quand même en bonne santé, je fume pas, tout ça, j'ai pas trop de facteurs de risque. Et je suis habituée, du fait de mon poste, à, voilà, devoir opérer des gens qui peuvent être, que je sais que des fois ils sont VIH, ils ont telle pathologie, qui sont vachement infectés, qui ont ci, qui ont là. Alors que, enfin, voilà, qu'on les opère, donc, j'ai les mains dans le sang, enfin, tous les risques que ça entraîne. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de ça. Non, c'était vraiment plus par rapport à mes enfants et mon mari, en fait. Bon, bah, toi, tu prends toutes les précautions. Moi, je faisais attention pour moi. Je sais que c'est mon métier, enfin, voilà ce que ça engendre. Mais là, c'était vraiment le fait que là, c'est un virus qu'on peut transmettre, en fait. On le voit pas, on le sait pas, on n'a pas forcément de signes, donc on peut être porteur sain. Et du coup, c'est pas évident du tout de savoir le risque qu'on fait prendre aux autres, en fait.
S'il n'y avait pas cette peur, je pense que c'est qu'on ne serait pas vraiment... On ne mesurerait pas les conséquences. On risque d'être contaminé à notre tour. Et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de soignants, que ce soit aide-soignante, que ce soit infirmier, que ce soit médecin, qui en sont décédés. Donc on risque notre vie tous les jours. Oui, c'est ce que je ressens. Je pars avec une boule qui grandit au fur et à mesure de l'heure à laquelle arrive le moment de partir. Et quand j'ai fini ma nuit, j'ai aussi cette boule qui est là, que je me dis, est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai bien lavé mes mains quand il fallait? Est-ce que j'ai bien tout décontaminé? Est-ce que je suis pas infectée? Est-ce que c'est toujours des questions et qu'on n'a pas de réponse ou qu'on aura peut-être un jour, si on développe la maladie, mais ce qu'on n'espère pas. Dans mon service, il y en a qui ont développé la maladie. Il y en a qui ont développé moins grave que d'autres. Il y en a d'autres qui ont dû être hospitalisés. Donc, c'est des choses qu'on côtoie et que, bien sûr, que ça fait peur. On a peur. On va soigner les gens parce qu'on, c'est notre métier, on aime ça. Et puis, il faut bien des gens pour les soigner. Je pourrais pas ne pas y aller. Mais, il y a toujours cette peur qui est là.
Si la plupart d'entre elles n'ont donc pas peur, la vocation ou la capacité d'adaptation ne doit pas compenser la défaillance d'un service public rongé par l'austérité budgétaire. À l'hôpital, par exemple, les moyens sont ceux du service public hospitalier. Ils sont insuffisants et c'est cette contrainte qui représente une mise en danger plus ou moins assumée par la hiérarchie et les institutions, ce dont témoignent les hésitations de début d'épidémie.
Nous, on a déjà quand même un métier où il faut quand même faire attention avec la pathologie des gens. On a toujours eu une façon d'arriver chez les gens. Il faut respecter, il faut se laver les mains déjà quand on change d'une personne à une autre. Donc ça a toujours été. Après, on fait peut-être un peu plus. Mais sinon, nous déjà, on a déjà un métier où il faut y faire déjà attention.
Depuis le début du virus, il nous a toujours manqué quelque chose. Que ce soit des gants, des masques, maintenant c'est des surblouses, les masques FPP2, c'est que pour les IDE, pour les soins invasifs. On n'était pas prêts, ça c'est sûr.
pareil, depuis quelques années, enfin, on voit dans les hôpitaux les lits baissés, enfin, on a très peu de moyens. Déjà, en EHPAD, le travail est assez soutenu, on va dire. Et du coup, forcément, le fait de ne plus avoir de visite, forcément, on passe plus de temps avec les résidents.
Oui, les employés de la distribution, les ouvrières, les enseignantes, les soignantes, elles ont été en première ligne contre le Covid-19 sans toujours obtenir la reconnaissance sociale et professionnelle qui leur est due. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, 18h, sur micro-rebelle.fr, sur l'appli de la Franf. Merci à nos amis de Radio PFM 99.9 et DAB+, de nous rediffuser. À très bientôt, à toutes et à tous. Bye bye.